إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue aujourd'hui la lecture et l'explication du livre Manhaj al-Salikin de l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala. On a lu hier l'introduction de l'auteur dans laquelle il nous a exposé la méthodologie qu'il a empruntée dans ce livre ainsi que ce que l'on appelle Al-Ahkam al-Khamsa, les cinq jugements, qui sont l'obligatoire, l'interdit, le détestable, le recommandé et le permis. Puis le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a démontré l'obligation pour chacun d'entre nous d'étudier la science du fiqh, la science de la jurisprudence, et notamment ce qui est lié aux adorations qui sont obligatoires pour nous. Il a donc commencé ensuite par exposer ce qui est lié aux règles de la purification. Et il a fait précéder cela d'une explication concise des deux attestations de foi. Il a dit, rahimahullah, « قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. » Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: l'islam est fondé sur cinq, c'est-à-dire sur cinq piliers. L'attestation que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, zakat, le pèlerinage de la maison, et le jeûne de Ramadan. Et ce hadith est muttafaqun alayhi, c'est-à-dire qu'il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Le cheikh rahimahullah ta'ala a donc commencé par mentionner les piliers de l'islam. Et pour cela, il a mentionné directement ce hadith. Et il a commencé par cela, car les savants du fiqh, al-fuqaha, ils ont trié leurs livres suivant ce qui est mentionné dans ce hadith. C'est-à-dire qu'ils ont commencé dans les livres de fiqh à mentionner les questions liées à la prière, puis à la zakat, et ainsi de suite. Et l'auteur rahimahullah ta'ala a emprunté cette voie dans cet ouvrage. Et généralement dans les livres de fiqh, comme on l'a mentionné hier à travers la définition de cette science, les savants ne mentionnent pas de questions liées à la aqidah, car la croyance a des livres qui lui sont réservés. Toutefois, l'auteur ici, il a choisi de commencer par une explication concise du sens des deux attestations de foi, qui sont le premier pilier de l'islam. Il a fait cela, rahimahullah ta'ala, car ces deux attestations, ce sont la base et le fondement sur lesquels l'ensemble de tes œuvres seront basées, que ce soit la prière, la zakat, le jeûne ou autre. Si ces deux attestations ne sont pas valides, ou qu'elles ne sont pas présentes, alors il n'est pas utile pour la personne de prier, de faire des aumônes ou autre. Ceci ne lui profitera en rien si elle n'a pas concrétisé avant cela les deux attestations de foi. Qu'elle ne vaut pas son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elle ne reconnaît pas que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc pour cela qu'il ne convient pas à une personne de commencer par l'étude des règles de la purification, de la prière ou du jeûne, alors qu'il ne connaît même pas le sens des deux attestations de foi et de ce qu'elles impliquent. Alors que ces deux attestations sont le premier pilier de l'islam, celui par lequel il nous incombe donc de commencer. Le Cheikh rahimahullah ta'ala a donc dit à ce sujet: فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ عِلْمُ الْعَبْدِ وَاَعْتِقَادُهُ وَالْتِزَامُهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُلُوهِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Il dit donc l'attestation que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, c'est le fait que le serviteur sache, croit et se conforme au fait que personne ne mérite l'adoration et la servitude sauf Allah seul sans associé. Ceci est ce qui est impliqué par ton attestation, ta reconnaissance qu'il n'y a de Dieu si ce n'est Allah. C'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois savoir cela, y croire et t'y conformer. C'est-à-dire que tu voues l'ensemble de tes adorations à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu ne voues ta servitude qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui seul, en dehors de tout autre que lui. Et cette attestation, comme on l'a mentionné dans d'autres cours, elle est basée sur deux piliers essentiels que l'on retrouve à travers ces termes et qui sont la négation et l'affirmation. La négation, elle consiste à nier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle-ci, tu la prononces en disant La ilah, il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré. Puis ensuite, tu viens avec le deuxième pilier qui est l'affirmation, qui consiste à affirmer que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. Et tu dis Illallah, sauf Allah. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, mérite l'adoration. Lui seul, en dehors de tout autre que lui. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit فَيُوجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ إِخْلَاصَ جَمِيعِ الدِّينِ لِلَّهِ تَعَالَى. Il dit, ceci oblige au serviteur, rend obligatoire pour le serviteur, qu'il voue son culte tout entier, exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que cette attestation, ce ne sont pas simplement des mots que tu prononces avec ta langue. Mais lorsque tu la prononces, cela rend des choses obligatoires pour toi. Et la chose la plus importante que cela rend obligatoire, c'est que tu voues ton culte tout entier, exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas, la sincérité, que tes adorations ne soient vouées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, وَأَن تَكُونَ عِبَادَاتُهُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ كُلُّهَا لِلَّهِ وَحْدَهُ. Et que ces adorations, les adorations du serviteur, celles qui sont apparentes et celles qui sont cachées, soient toutes pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Celles qui sont apparentes comme la prière, la zakat, le pèlerinage ou autre. Et celles qui sont cachées comme par exemple la peur, l'espoir, l'amour, le tawakkul, la confiance. Et ainsi de suite parmi les adorations qui sont cachées comme les œuvres du cœur. Tout cela ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et il dit, rahimahullah, وَأَلَّا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا فِي جَمِيعِ أُمُورِ الدِّينِ. Et qui ne lui donne aucun associé dans l'ensemble de ses affaires religieuses. Et ça, c'est très important. Il ne suffit pas que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est nécessaire que tu ne lui donnes aucun associé. Car il y a certaines personnes qui font des adorations pour Allah, qui prient, qui jeûnent, qui donnent des aumônes, qui font le pèlerinage, la umrah, ainsi de suite. Mais en parallèle, ils font du shirk, ils font du polythéisme majeur, des choses qui s'opposent à cette attestation. Ils donnent des associés à Allah comme par exemple en sacrifiant une bête pour un mort, ou en sacrifiant une bête pour un djinn ou pour les sorciers. Et ceci est du polythéisme majeur qui s'oppose et annule cette attestation. Donc le serviteur, lorsqu'il atteste que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré, sauf Allah, ceci implique et exige de lui qu'il voue l'ensemble de ses adorations à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé, et qu'il ne donne aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Médite dans l'ensemble de ses affaires religieuses. Tu ne donnes aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, وَهَذَا أَصْلُ دِينِ جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ وَأَدْبَاعِهِمْ. Et ceci est la base de la religion de l'ensemble des messagers et de leurs suiveurs. Tous les messagers, de Nuh alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous venus avec ce même message, qui est le fait d'appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, il y avait certaines différences dans leur sharia, leur législation. Elles étaient différentes sur certains points. Mais la base de leur religion était ce fondement immense par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers qui est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et renier l'adoration de tout autre qu'Allah. Il dit ensuite, mentionnant la preuve de cela, « كما قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager, sans lui révéler Il n'y a pas de Dieu en dehors de moi, adorez-moi donc. Ce verset est une preuve explicite que tous les messagers alayhim salat wa salam sont venus appeler à ce message. Et cela te montre que ceci est la chose la plus importante de la religion. Il ne convient donc pas aux musulmans d'ignorer le sens de cette attestation. Mais il incombe à chacun d'entre nous d'apprendre le sens de cette attestation, d'apprendre ce qu'elle implique et de faire des efforts pour concrétiser cela au quotidien. Ensuite, il nous explique la deuxième partie de l'attestation qui est Shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah. Il nous dit concernant cette attestation An ya'taqid al-'abd anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ila jami' al-thaqalain al-ins wal-jinn bashiran wa nadhiran yad'uuhum ila tawhid Allah wa ta'atihi. Dit c'est que le serviteur croit qu'Allah a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des deux pesants, les hommes et les djinns, en tant qu'annonciateur et avertisseur, les appelant au tawhid, les appelant à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu attestes que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu reconnais donc qu'il a été envoyé à l'ensemble des deux pesants, l'ensemble des hommes et des djinns. Ce n'est pas simplement, comme certains pourraient le penser, le prophète des Arabes, mais il a été envoyé à toute l'humanité. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Dis, ô vous les gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Il a été envoyé à l'ensemble de l'univers sallallahu alayhi wa sallam. En tant qu'annonciateur, c'est-à-dire afin d'annoncer la bonne nouvelle de la récompense du paradis pour celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et lui obéit. Et en tant qu'avertisseur, c'est-à-dire afin d'avertir ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et mécroient en lui qu'ils encourent un châtiment douloureux. Et il dit, il est venu appeler à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a mentionné, ceci est la base de l'ensemble de la religion, de l'ensemble des prophètes et des messagers, alayhim salatu wa salam, et c'est la chose la plus importante à laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé. C'est le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par cela qu'il a commencé à appeler ses proches. Et c'est à cela qu'il a appelé durant 10 ans à Mecca, avant même que la prière ne soit prescrite. Ceci nous montre l'importance du tawhid, l'importance du fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. Il les appelle à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et lui obéir. Comment lui obéir? بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. Il dit on lui obéit comment? En croyant ce dont il nous a informé, en nous soumettant à ses ordres et nous écartant de ses interdits. وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به. Et qu'il n'y a pas de bonheur ni de bien dans ce bas monde et dans l'au-delà, si ce n'est par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et son obéissance. En effet, la personne, elle aura beau chercher le bonheur dans les futilités de ce bas monde, ou dans ses désirs et autres plaisirs. Ce bonheur, c'est un bonheur éphémère. C'est un bonheur qui ne dure pas. Le vrai bonheur, la personne, elle ne peut le trouver que dans la douceur de la foi, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci apporte au serviteur quiétude ici-bas, et il en trouvera la récompense dans l'au-delà, avec un paradis dans lequel il vivra éternellement, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ces gens. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit, toujours concernant l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, « Wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbati nafsi wal waladi wal nasi ajma'in. » Et il est obligatoire de faire prévaloir son amour, c'est-à-dire l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'amour de sa propre personne, de ses enfants et de l'ensemble des gens. Ceci fait partie des droits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie de la perfection de la foi. Que tu aimes le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que ta propre personne, plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que l'ensemble des gens. Les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala rapporte d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul d'entre vous n'aura la foi jusqu'à ce qu'il m'aime plus que ses enfants, ses parents et l'ensemble des gens. » Il est donc obligatoire pour le musulman d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour du prophète, ce n'est pas simplement une prétention que la personne prononce avec sa langue en disant j'aime le messager d'Allah, je secours le messager d'Allah, je soutiens le messager d'Allah. Et ce n'est pas non plus un slogan qu'on va écrire sur des affiches ou alors l'écrire sur internet et mettre des images j'aime le messager d'Allah, je secours le messager d'Allah. Ce n'est pas cela l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le véritable amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le suivre et de lui obéir. Que tu suives sa sunna, que tu mettes en pratique sa religion, que tu accomplisses les choses qu'il a ordonnées, que tu délaisses les choses qu'il a interdites, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala de la manière par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'adorait. Tu ne te rapproches pas d'Allah subhanahu wa ta'ala par des innovations. Tu ne te rapproches pas d'Allah subhanahu wa ta'ala par des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré. Ceci est le véritable amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci même est un signe et une preuve de l'amour véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez vraiment Allah, il s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, dis, c'est-à-dire adresse-toi aux gens. Si vous aimez vraiment Allah, comment prouver que tu aimes vraiment Allah? Alors suivez-moi. Suivez le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suivez sa sunna. Obéissez à ses ordres, délaissez ses interdits. Tel est l'amour véridique d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu récolteras de cela une récompense immense. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est-à-dire qu'en suivant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu obtiendras l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que le pardon de tes péchés. Donc comme on a dit, l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme on le voit chez beaucoup de gens aujourd'hui, simplement des mots qu'il prononce. Il te dit j'aime le messager d'Allah, tout sauf le messager d'Allah est une ligne rouge. Et peut-être qu'il ne fait même pas la prière. Ses comportements s'opposent au comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il délaisse nombre de ses ordres, il transgresse nombre de ses interdits. Ceci est un amour qui est déficient. Si vraiment tu aimes le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors suis sa sunnah. Comporte-toi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait. Adore Allah subhanahu wa ta'ala comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah. Ceci est le véritable amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et également, parmi les signe de l'amour véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les choses impliquées par le fait que tu attestes qu'il est le messager d'Allah, c'est que tu fasses prévaloir sa parole et son jugement sur la parole et le jugement de tout autre que lui parmi les hommes. Il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne convient pas aux musulmans d'opposer la parole d'un homme à la sienne ou d'opposer le jugement d'un homme au sien. Car son jugement est le meilleur des jugements. Sa voix est la meilleure des voix. Sa conduite est la meilleure des conduites. Donc ceci est un point important qu'il ne faut pas négliger et qui sont des signes de l'amour véridique du messager sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur continue en disant وَأَنَّ اللَّهَ أَيَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى رِسَالَتِهِ وَبِمَا جَبَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلُومِ الْكَامِلَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْعَالِيَةِ وَبِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ دِينُ مِنَ الْهُدَى وَالرَّحْمَةِ وَالْحَقِّ وَالْمَصَالِحِ الدِّينِيَّةِ. Il dit, tu dois également croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu son messager sallallahu alayhi wa sallam par des miracles prouvant son message, prouvant la réalité de sa prophétie, qu'il est réellement un messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi cela, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une science parfaite et des caractères éminents, un très noble comportement. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet dans son noble livre, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et tu es certes d'une moralité éminente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un comportement exemplaire. Il dit dans un hadith, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles comportements. Et lorsque Aïcha radiallahu ta'ala anha a été interrogée sur son comportement, elle a dit, son comportement était le Coran. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le délaissait. Tel était son comportement sallallahu alayhi wa sallam. Il dit également, et sa religion comprend al-huda. Al-huda, que l'on traduit parfois par la guidée, elle désigne en réalité la science bénéfique. La science bénéfique. Donc sa religion comprend la science bénéfique, ar-Rahma, la miséricorde, la clémence. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses noms, il y a Nabi ar-Rahma, le prophète de la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était persécuté par son peuple, qu'il subit de nombreux préjudices, lui ainsi que ses compagnons parmi les premiers croyants, radiyallahu ta'ala anhum. Lorsqu'il était à la Mecque, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé l'ange des montagnes, l'ange chargé des montagnes, qui lui a dit, si tu veux, ô Muhammad, je fais s'écrouler ces deux montagnes, c'est-à-dire deux montagnes qui étaient autour de la Mecque, sur eux, afin de les anéantir. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré les préjudices qu'il leur causait, à lui et ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, les tortures de ses compagnons, les insultes, les railleries, c'est un menteur, c'est un poète, c'est un sorcier, c'est un fou. Il se moquait de lui. Il le dénigrait, le rabaissait, le méprisait. Il torturait ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Il aurait pu accepter cette proposition de la part de l'ange des montagnes. Mais comme on a dit, c'est le prophète de la miséricorde. Il a donc refusé et il a dit, j'espère qu'Allah fera sortir de leur descendance des gens qui adoreront Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Tel est le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec ceux qui le dénigraient, le prenaient en raillerie et torturaient ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, a donc dit, sa religion comprend al-huda, on a dit c'est la science bénéfique, al-rahma, la miséricorde, et al-haq, la vérité, qui désigne ici les œuvres pieuses. Sa religion, elle comprend cela, la science bénéfique, la miséricorde et les œuvres pieuses. Et il dit ainsi que tous les intérêts religieux et mondains, tout ce qui est bénéfique pour la personne, pour sa religion ou pour ses affaires mondaines, alors elle le trouvera dans la religion de l'islam, la religion de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, il dit, wa ayatuhu al-kubra, hadha al-Qur'an al-azim, bima fihi min al-haq fil akhbar wal-amri wan-nahi, wallahu a'lam. Il dit, et son plus grand signe, le plus grand signe avec lequel il a été envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce Coran immense, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce qu'il comprend comme vérité dans ses informations, ses ordres et ses interdits, wallahu a'lam. En effet, le Coran, c'est un des plus grands signes de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a lancé un défi aux Arabes de venir avec un livre comme ce Coran, ou ne serait-ce qu'avec des sourates ou une sourate semblable à une sourate de ce Coran. Ils n'ont pas été capables de relever ce défi. Et ceci fait partie des signes nous démontrant la véracité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, après cette brève explication des deux attestations de foi, il va commencer à aborder les questions liées à la prière et la purification. Il dit donc, rahimahullah ta'ala, وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. Quant à la prière, elle a des conditions qui la précèdent. La prière, comme on l'a vu dans le hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné, c'est le deuxième pilier de la religion de l'islam. Et c'est le pilier le plus important après les deux attestations de foi. Et cette prière, elle a des conditions. Parmi ces conditions, il y a la purification qui la précède. C'est-à-dire que pour pouvoir prier, il est obligatoire au préalable que tu te purifies. C'est donc pour cela que les savants ont commencé dans les livres de jurisprudence à mentionner le chapitre de la purification avant celui de la prière. Car pour prier, il est nécessaire tout d'abord de se purifier. Il a dit donc, فَمِنْهَا الطَّهَارَةُ. Et parmi ces conditions, il y a la purification. كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas une prière sans purification. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورِ. La clé de la prière est la purification. Et ce hadith également est un hadith authentique, rapporté par al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, et d'autres, et il a été authentifié par al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Donc la purification, c'est la clé de la prière. C'est une de ses conditions les plus importantes. Et la purification, elle se divise en deux catégories, comme l'ont mentionné les gens de science. La première catégorie est la purification morale, c'est-à-dire que tu purifies ton cœur du polythéisme, que tu purifies ton cœur des péchés, et que tu purifies ton cœur de tout ce qui pourrait le souiller. Et cette purification, c'est la plus importante. Elle est plus importante que la purification du corps. Car purifier ton corps ne t'est d'aucune utilité si tu n'as pas au préalable purifié ton cœur du polythéisme. Comme on a dit, la base de la religion, c'est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de renier l'adoration de tout autre que lui. Donc celui qui n'a pas purifié au préalable son cœur de cela, n'a pas purifié son cœur du polythéisme, alors la purification de son corps ne lui sera d'aucune utilité. Le deuxième type de purification, c'est la purification physique, c'est-à-dire la purification du corps. Et c'est ce dont l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous parler ici. Il dit donc, فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرْ وَالْأَسْخَرْ وَالنَّجَاسَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. Il dit donc, celui qui ne se purifie pas d'al hadath al-akbar wal asghar, que l'on pourrait traduire par l'état d'impureté majeur et mineur. Wan najasa, l'impureté, alors il n'a pas de prière. C'est-à-dire que sa prière n'est pas valide. En effet, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala vient de mentionner, Allah n'accepte pas une prière sans purification. Donc celui qui ne se purifie pas, sa prière n'est pas valide. Et de quoi doit-il se purifier? Il doit se purifier de trois choses. Il nous dit le shaykh, al-hadath al-akbar, l'état d'impureté majeure. Al-hadath al-asrar, l'état d'impureté mineure. Ou al-najasa, et l'impureté. Donc al-hadath, on pourrait l'expliquer comme étant l'état relatif au corps qui empêche d'accomplir la prière ou autre parmi les choses qui nécessitent la purification. L'état relatif au corps qui empêche d'accomplir la prière ou autre parmi les choses qui nécessitent la purification. Ceci est la définition de al-hadath. Et al-hadath, comme l'auteur rahimahullah ta'ala l'a mentionné, il est de deux sortes. Akbar, majeur, et celui-ci, pour s'en purifier, cela nécessite le rousl, les grandes ablutions. Et asrar, mineur, pour s'en purifier, il nécessite les ablutions. Donc pour pouvoir prier, il est indispensable de se purifier d'al-hadath al-akbar, de l'état d'impureté majeur, et d'al-hadath al-asrar, l'état d'impureté mineur. Ceci est une obligation, sinon la prière n'est pas valide. Et comme vous le voyez, al-hadath, ce n'est pas quelque chose de physique, ce n'est pas quelque chose qui est visible. Et tu t'en purifies par les ablutions ou le rousl, les grandes ablutions, le lavage. Ensuite, il dit, wan najasa, la troisième chose de laquelle tu dois te purifier pour pouvoir prier, c'est najasa, qui désigne l'impureté, c'est-à-dire les impuretés physiques, comme l'urine, les excréments ou autres. Si une personne, par exemple, a de l'urine sur son vêtement, il est obligatoire de le nettoyer pour pouvoir prier. Car pour pouvoir prier, il est obligatoire pour toi de purifier trois choses. Ton corps, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir d'impureté physique sur ton corps, sur tes vêtements, les vêtements que tu portes pour accomplir cette prière, et le lieu, c'est-à-dire le lieu où tu accomplis cette prière. Il est obligatoire de les purifier de l'impureté. Sinon, il dit le shaykh rahimahullah ta'ala, la personne n'a pas de prière, sa prière n'est pas valide. Ensuite, il dit « وَالطَّهَارَةُ نَوْعَانْ » Et la purification est de deux sortes. أَحَدُهُمَا أَتَّهَارَةُ بِالْمَا وَهِيَ الْأَصْلِ Il dit la première est la purification par l'eau. Et ceci est la base. Donc les deux sortes de purification auxquelles l'auteur rahimahullah ta'ala fait référence ici, c'est premièrement la purification par l'eau et deuxièmement la purification par la terre qu'on appelle التيمم et que l'on verra au moment venu dans le livre Inch'Allah ta'ala. Il dit donc la base, c'est la purification par l'eau. La preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ Et il descend sur vous des cieux de l'eau afin de vous purifier par celle-ci. Ainsi que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا Et si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum. Ces versets nous prouvent donc que la base est la purification avec l'eau, et que l'on ne passe pas au deuxième type de purification qui est le tayammum, la purification avec la terre, sauf en cas d'absence d'eau, ou alors que tu n'es pas capable d'utiliser l'eau. Si l'eau est présente et que tu es capable de l'utiliser, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis de faire le tayammum, mais est obligatoire de se purifier avec l'eau, car ceci est la base. Ensuite, il nous va nous parler des eaux. En effet, la purification, si elle a lieu avec l'eau, on a besoin de savoir quelle est la caractéristique de cette eau par laquelle tu dois te purifier. Il dit, rahimahullah, فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَنَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ طَهُورٌ. Toute eau qui descend du ciel ou qui est issue de la terre, une source d'eau qui est issue de la terre, alors celle-ci est pure. La preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Et nous avons fait descendre du ciel une eau pure. Donc l'eau de la pluie, ou la neige, ou l'eau issue de la terre, des rivières, de la mer, et ainsi de suite, toutes ces eaux, ce sont des eaux pures. Il dit, rahimahullah, يُطَهِّرُ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ. Et cette eau pure, elle est purifiante, c'est-à-dire qu'elle permet de te purifier des états d'impureté, majeurs ou mineurs, et des impuretés physiques, comme l'urine, l'excrément, etc. Il dit, وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ. Il dit, cette eau, dont la base est la pureté, comme l'eau de la pluie, l'eau des rivières, l'eau de la mer, et ainsi de suite, elle te purifie, même si sa couleur a changé, ou son goût, ou son odeur, par l'altération d'une chose pure. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. L'eau est pure, rien ne la rend impure. رواه أهل السنن وهو صحيح. Il dit, il a été rapporté par les gens des Sunan et c'est un hadith authentique. Il a été authentifié notamment par l'imam al-Albani, رحمه الله تعالى. Donc on a dit l'eau, la base est qu'elle est pure. Et par celle-ci, tu peux te purifier. Tu peux faire les ablutions, tu peux faire le ghusl et tu peux nettoyer tes vêtements ou ton corps de toute impureté. Et ce même si cette eau a été modifiée dans une de ses trois propriétés par une chose qui est pure. Ces trois propriétés, ce sont quoi? Sa couleur, son goût et son odeur. Si une de ces propriétés, ou plus, ont été modifiées par une chose pure, par exemple, un peu de savon. Dans une baignoire, par exemple, tu t'es lavé et il y a dans cette eau le goût du savon. Est-ce que tu peux faire tes ablutions avec cette eau? La réponse est oui, car elle est pure et purifiante. Également, si elle a été modifiée par la présence de terre, sa couleur a été altérée, ou par de la vase, est-ce que tu peux faire tes ablutions avec cette eau? La réponse est oui, car elle est pure et purifiante. À partir du moment où l'on dit que c'est de l'eau, qu'elle garde son nom, alors elle reste pure et purifiante. Mais si elle perd son nom par cette chose qui est venue l'altérer, il y a quelque chose qui est venu altérer son goût, son odeur ou sa couleur, mais qui en l'altérant lui fait perdre son nom. Alors bien qu'elle reste pure, tu ne peux plus te purifier avec. Par exemple, si elle est altérée par du sirop, on ne dira plus que c'est de l'eau, mais on dira que c'est un verre de sirop. Ou alors par du café, par du thé, et ainsi de suite parmi les choses qui peuvent altérer l'eau, tout en la laissant pure, mais lui faisant perdre son nom, et perdant ainsi son caractère purifiant. Donc lorsque tu fais du café avec de l'eau, ou du thé, une fois le café ou le thé prêt, tu n'appelles plus cela de l'eau. Donc cela reste pur, mais tu ne peux plus te purifier avec. Il en est de même si tu mets du sirop. Il en est de même avec ce que l'on appelle l'eau de rose ou l'eau de fleur d'oranger. Ce n'est plus de l'eau dans son sens premier. Donc bien que ce sont des choses pures, ce ne sont pas des choses qui sont purifiantes avec lesquelles tu peux faire tes ablutions. Mais si la chose qui est venue la modifier est une chose pure, qui ne lui a pas fait perdre son nom, même si cela a changé sa couleur, son odeur ou son goût, alors tu peux faire les ablutions avec, comme on l'a mentionné, s'il y a un petit goût de savon ou que la terre a altéré sa couleur et ainsi de suite. Et ceci est l'avis le plus juste, comme l'a dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, parmi les avis des gens de science à ce sujet. Ensuite il dit, فَإِن تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسْ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ. Il dit, mais si une de ses propriétés a été altérée par une impureté. Une de ses propriétés, comme on a dit, c'est sa couleur, son goût, son odeur. Ce sont les trois propriétés qui sont visées ici. Si une de ses propriétés a été altérée par une impureté, par exemple de l'urine, alors cette eau devient impure et il est obligatoire de s'en écarter. C'est-à-dire qu'il n'est plus permis de se purifier avec cette eau. Si son goût, son odeur ou sa couleur ont été modifiés par une impureté. Et les gens de science sont unanimes à ce sujet. Que l'eau soit en petite ou en grande quantité, si une de ses propriétés est altérée par une impureté, que ce soit son goût, sa couleur ou son odeur, alors cette eau est impure tant qu'elle reste ainsi et il n'est pas permis de faire ni les ablutions, ni le lavage, ni de nettoyer une impureté avec celle-ci. On voit donc à travers cela que l'eau se divise en deux catégories, pure ou impure. Tant qu'aucune impureté n'est venue altérer une de ses propriétés, alors elle reste pure et purifiante. Mais si elle est altérée dans une de ses propriétés par une impureté, alors cette eau devient impure et il n'est plus permis de l'utiliser pour la purification. Puis le Cheikh rahimahullah ta'ala nous mentionne un point important, il dit: Wal aslu fil ashiya at-taharatu wal ibaha. Et la base dans les choses, c'est la pureté et la permission. C'est-à-dire que, comme il va le mentionner, cette eau, si tu as un doute à son sujet, alors la base est qu'elle est pure. Et également la base dans les choses, c'est la permission. Et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre. Les gens de science ont dit que ce verset est une preuve que tout ce qui est présent sur terre, tant qu'il n'y a pas un texte démontrant que ceci est une chose interdite, alors la base est sa permission. Parmi les nourritures et les boissons, par exemple. Tant qu'il n'y a pas une preuve que telle ou telle nourriture ou telle boisson est interdite, la base et la permission. Et il en est de même concernant l'eau. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, فَإِذَا شَكَّ الْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَهُوَ طَاهِرٌ. Il dit par conséquent, si le musulman doute quant à l'impureté d'une eau, d'un vêtement, d'un lieu ou autre, alors il est pur. Lorsque tu es en voyage, tu es parfois amené à prier dans certains endroits à l'extérieur. Il y a certaines personnes parfois qui doutent de la pureté de l'endroit où ils vont prier. Ils craignent que cet endroit ait été touché par une impureté. Si tu en as la certitude que cette impureté est présente, alors il n'y a pas de problème. Mais si tu es dans le doute que c'est simplement une supposition, alors on appliquera ici la règle que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée. La base est la pureté. Si tu es dans le doute, la base est que tu peux prier dans cet endroit. Concernant l'eau, il en est de même. Si tu as une eau dont la couleur a changé, elle a été altérée. Mais tu ne sais pas si cette altération est due au fait que soit tombée dans cette eau une chose pure ou une chose impure. Tu es donc dans le doute. Peux-tu faire tes ablutions avec cette eau ou non? La réponse est que tu peux faire tes ablutions, car la base est la pureté. La base étant la pureté, il n'est donc pas permis de te détourner de cette base si ce n'est avec certitude. Tant que tu n'as pas la certitude que cette eau, ce vêtement, ce lieu ou autre, est impur, alors tu dois rester sur la base qui est la pureté. Cela peut arriver parfois, tu marches dans la rue, dans un parc ou autre, il y a une flaque d'eau, et tu marches par inadvertance dans cette flaque d'eau. Cette eau gicle sur tes vêtements. Il y a certaines personnes qui pensent que ils sont obligés alors de se changer pour pouvoir prier, de nettoyer ce vêtement, par crainte qu'il n'y ait eu dans cette flaque d'eau une impureté. Mais dans cette situation, tu dois te baser sur cette règle. À partir du moment où tu es dans le doute, que tu n'as pas de certitude, tu dois rester sur la base qui est la pureté. Tant que tu n'as pas la certitude que cette eau était impure, alors tu restes sur la base et tu considères qu'elle est pure. Et tu n'as pas besoin de nettoyer ton vêtement dans cette situation. Le Shir rahimahullah ta'ala continue et dit: O tayaqqana tahar. Ou alors, si le musulman est sûr qu'il est en état de pureté, wa shakka fil hadath, et il est en doute concernant le fait d'avoir perdu ses ablutions. Il dit, rahimahullah, fahuwa tahir. Alors il est pur. Alors tu es en état de pureté. Tant que tu n'as pas la certitude d'avoir perdu tes ablutions. Tu t'es levé le matin, tu as fait tes ablutions, tu as prié le fajr, ensuite resté réveillé, tu es parti au travail ou autre. Vient le temps de la prière du dhuhr et tu es dans le doute. Ai-je encore mes ablutions ou non? Le seul souvenir que tu as, c'est que le matin tu t'es levé, tu as fait tes ablutions. Et tu n'as pas le souvenir de les avoir perdus après cela. Mais tu as un doute. Que dois-tu faire dans cette situation? La réponse est, comme l'a dit le cheikh, rahimahullah ta'ala, est que tu restes sur cette certitude qui est le fait que tu es pur. Tu es en état de purification. Tant que tu n'as pas la certitude que tu as réellement perdu tes ablutions. Et la preuve à ce sujet, ce qu'a mentionné le cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit, li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشاي في الصلاة. Concernant l'homme, qui s'imagine ressentir quelque chose dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à ce sujet, concernant la personne qui, lorsqu'il prie, a l'impression de perdre ses ablutions. Il s'imagine ressentir certaines choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajida riha. Muttafaqun alayh. Il ne doit pas quitter, c'est-à-dire la prière, il ne quitte pas la prière, tant qu'il n'entend pas de son et ne sent pas d'odeur. Et ce hadith est muttafaqun alayh, c'est-à-dire qu'il est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Donc lorsque tu pries, si tu as l'impression de ressentir certaines choses, mais que tu es dans le doute, ai-je perdu mes ablutions? Que dois-tu faire? La réponse est que tu dois continuer de prier et ne pas tenir compte de ses doutes, comme le démontre très clairement ce hadith. Tu ne sors pas de la prière tant que tu n'as pas entendu de son ni senti d'odeur, c'est-à-dire tant que tu n'as pas la certitude d'avoir perdu tes ablutions. Car dans les deux cas mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, le fait d'entendre un son ou de sentir une odeur, tu auras la certitude. Tant qu'il n'y a pas ça, cela signifie que tu es dans le doute, tu es dans l'incertitude d'avoir perdu ou non tes ablutions. Donc tu restes sur la base qui est que tu es pur et tu continues de prier, tu ne tiens pas compte de ces doutes. Et ceci est une règle très importante et qui est négligée par certaines personnes qui finissent par quoi? Par tomber dans les wasawis, les suggestions du diable. Il commence à venir à lui durant la première prière. Tu as perdu tes ablutions. La personne hésite un instant. J'ai perdu mes ablutions ou non? Il réfléchit, puis il se dit: Je vais sortir de la prière, je vais recommencer, cela est plus prudent. Il pense, sous prétexte de prudence, bien agir. Mais cette prudence, elle s'oppose à la charia. Elle s'oppose à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit: Il sort de la prière par prudence, et il va refaire ses ablutions, comme ça il est sûr. On ne sait jamais. Non, il a dit: Il ne quitte pas la prière tant qu'il n'entend pas de son et ne sent pas d'odeur. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas la certitude d'avoir perdu ses ablutions, il continue de prier. Et ceci est une règle importante à retenir et à appliquer. On a donc terminé avec ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné concernant l'eau. Puis ensuite, il va aborder certains points liés au récipient et également au comportement et bienséance relative au moment de faire ses besoins. Et on verra cela, inshallah ta'ala, dans le prochain cours, bi'inillahi ta'ala. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم